groupe majeur. Il y a, chez PSA, d'autres syndicats. Il y a Force ouvrière, syndicat maison chez PSA, c'est pas partout comme ça. Je ne suis pas en train de stigmatiser un syndicat plutôt qu'un autre, mais chez PSA, c'est comme ça. Force ouvrière, à Poissy, c'est le syndicat maison. Main dans la main avec la direction. Il y en a toujours un, de toute façon, dans toutes les boîtes. Eux, ils ont compris, les patrons, à quoi ça sert le syndicat, parfois, pour eux. Mais les neuf en question appartiennent à ce syndicat CGT. J'ai trouvé dans le compte-rendu de constat d'infraction de la gendarmerie une explication. Ce sont les gendarmes qui l'a donné. Il disait PSA a failli couler. Ils ont supprimé Aulnay, l'établissement d'Aulnay, et après ça, ça a été un miracle, ce qu'on appelle un miracle économique, c'est-à-dire qu'on licencie des milliers de personnes et après ça va bien pour les patrons. Eh bien, on a supprimé Aulnay, et puis maintenant, les bénéfices de PSA ont augmenté de 79% par rapport aux 5 années passées. C'est quand même pas mal. Les dividendes sont énormes. C'est la gendarmerie qui les fait. Les bénéfices ont augmenté de 79%. Mais il y a eu un plan social. Et il y a parfois des mouvements dans l'établissement. Il y a des débrayages, des grèves. C'est toujours la CGT qui est à l'origine de ces mouvements. C'est pas moi qui le dis, ce sont les gendarmes. C'est toujours la CGT. Voilà, mais alors la CGT, ce sont des voyous. Eh oui, mais c'est aussi simple que ça. Ça a l'air caricatural. C'est ce qui est écrit. Parce qu'ils sont paresseux, ils ne veulent pas travailler. C'est ce qui est écrit. Là, les CGTistes et les sympathisants CGTistes prennent toujours prétexte d'une infraction pour arrêter de travailler. Ils sont donc paresseux. Ils sont grossiers. Ils disent des gros mots, parce que les chefs n'en disent jamais. Et ils sont violents. Violents. Ça, c'est le mot-clé. C'est le mot-clé. Et eux, on les a accusés d'avoir séquestré un petit chef, les neuf. On les a accusés d'avoir séquestré un petit chef, vous êtes tous assis, 17 minutes. J'en ai plaidé des séquestrations. C'est la première fois de ma vie d'avocat, ça fait 30 ans comme on l'a dit, que je plaide une séquestration de 17 minutes. Ah oui, mais en première instance, ils ont pris 5 mois de prison avec sursis, et 2500 euros d'amende, et oui, là on rit. Mais dans les tribunaux, on ne rit pas. On parlait des gilets jaunes. Mais c'est exactement la même chose pour les syndicalistes. C'est la même chose pour tous ceux qui relèvent la tête. C'est la même chose pour tous ceux qui osent contester, protester. Et tout cela, les patrons le savent. Les patrons, ils ont la mémoire longue. Ils se souviennent des luttes ouvrières. Parfois, le monde ouvrier ne s'en souvient plus. Mais eux, ils s'en souviennent. Ils ont cette terreur, au fond d'eux, des luttes ouvrières, des soulèvements. Ils en ont peur. Moi, je voudrais que les ouvriers s'en souviennent autant. Parce qu'alors, la peur changerait de camp. Eux s'en souviennent. Ils s'en souviennent et ils ont affiné leur technique avec le temps. Parce que d'autre côté, ils réfléchissent beaucoup. Moi, je le vois. Ils sont très militants et ils réfléchissent beaucoup. Et comment ont-ils affiné leur technique? Eh bien, ils ont, c'est facile à remarquer, quand on est du côté du manche, c'est facile. Ils ont appris la manière dont il fallait s'y prendre pour désigner les fauteurs de troubles dans l'entreprise. Comment désigner les fauteurs de troubles quand ils sont gilets jaunes? Comment désigner les fauteurs de troubles quand ils sont des militants de tout poil? Comment les désigne-t-on? Mais on les désigne en les dénonçant comme violents. Ils sont violents. Je n'ai jamais autant entendu parler de violence que depuis quelques années. Souvenez-vous, pendant un temps, c'était la criminalité qui était mise en avant. Il y avait une criminalité galopante. Et tout le temps, dans la presse, on avait des taux de criminalité qui ne cessaient de monter à tel point qu'on se demandait comment on pouvait encore sortir dans la rue. Et puis, vous entendez parler de criminalité tout de suite, de la montée des cambriolages, des atteintes à la personne? Pas tellement. Non. Aujourd'hui, c'est la violence sociale. C'est de ça qu'on entend parler. On a d'autres violents. Ce sont les gilets jaunes, tout de suite. Les gilets jaunes qui sont des violents par nature. Moi, je suis allée dans les manifestations les samedis à Paris. Je suis allée et j'ai vu comment ça fonctionne. Il suffit d'y aller quand même pour comprendre. Eh bien, violence. Une voiture qui brûle, ça fait de l'effet quand il y a une caméra dessus. Mais il n'y a pas eu beaucoup de voitures qui brûlaient. Le Fouquet's, c'est moi que ça fait pleurer. Mais le Fouquet's, c'est un symbole, c'est bien normal qu'on s'en prenne au symbole. Mais ils sont violents. Et tout cela appelle des réponses. Je reviens sur mon propos initial. On a fait ça avec le terrorisme. Maintenant, on le fait avec la violence. Ça va me permettre de faire un tout petit tracé de l'histoire de ce droit sécuritaire dont nous avons hérité aujourd'hui. On n'en a pas hérité avec Macron. On n'en a pas hérité avec Hollande. C'est un processus. Je le disais tout à l'heure, depuis 86. C'est un processus qui s'est mis en place et qui s'est mis en place, à mon sens, bien avant encore. En 81, on a eu un symbole de coup d'arrêt. Souvenez-vous. Il y avait eu 36. Oh, bien avant, bien avant, bien avant. À la fin du 19e, on avait eu les attentats anarchistes. Je ne vais pas vous dire souvenez-vous. Mais on avait eu les attentats anarchistes. Depuis 1893, 1894, les lois scélérates, ça vous rappelle quelque chose peut-être ça quand même, les articles de Léon Blum, de Pouget. Les lois scélérates, ces lois qui envoyaient les personnes aux galères. Alors aujourd'hui on n'a plus de galères, c'est autre chose. C'est la galère sociale qu'on impose aux gens. Et vous allez voir, c'est très concret. Mais on envoyait des gens aux galères parce qu'il y avait eu ces attentats anarchistes, parce qu'il y avait un danger majeur. On avait fait peur à cette majorité. Et il y a eu la loi de 93 sur la presse, museler la presse. On est en train de le faire. Hein. Et puis, on va passer. Il y a eu des luttes ouvrières, il y a eu vraiment des combats importants. Et puis, 36, puis il y a eu la guerre. Ça n'a pas été un grand liberté après la guerre, il ne faut pas raconter l'histoire. Mais après, on a eu 68. Ah, 68, ça leur a fait peur. Très peur. Ils ont cru que c'était la révolution. Il y en a qui voulaient s'expatrier. Et pas seulement les grosses fortunes, parce qu'on arrive à faire peur à des minuscules fortunes. Et après 68, eh ben, il y a eu la loi anti-casseur de 70. C'est toujours comme ça. Les réactions des puissants, des possédants, elles sont toujours les mêmes. ils ont peur, eh bien, il faut mettre en place un droit qui va permettre d'empêcher que ça recommence. C'est leur rêve, il faudra quand même leur faire tomber. Mais 70, la loi anti-casseur. La loi anti-casseur, c'est une des premières lois qui tenait un boutoir considérable dans la structure du droit pénal. On a un droit pénal qui est relativement bien structuré. C'est un héritage de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a quand même des révolutions, elles apportent toujours quelque chose. Et notre droit pénal suppose, d'une part, qu'une infraction soit définie par avance. C'est-à-dire que tout citoyen puisse savoir par avance ce qu'il a le droit de faire ou ce qu'il n'a pas le droit de faire. Ça vous paraît élémentaire. On va voir qu'aujourd'hui, c'est plus si sûr. Et puis, notre droit pénal suppose qu'on puisse imputer à une personne précise un acte précis, un fait. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas poursuivre une personne pour autre chose que d'un acte positif qu'elle aurait posé. Ça aussi, ça paraît évident. Vous savez, moi, devant les tribunaux correctionnels, devant les cours correctionnels, je suis obligée de le plaider aujourd'hui. Je suis obligée de leur rappeler qu'il existe un droit pénal et qu'il est structuré de cette manière. Et jusqu'à nouvel ordre, il doit être appliqué de cette manière. Je suis obligée de leur rappeler que le poursuivant, le ministère public, doit démontrer de manière irréfutable que la personne a bien commis tel acte incriminé par la loi, et précisément tel acte. Dans notre jargon, on dit que le droit pénal est d'interprétation stricte, c'est-à-dire que l'acte qui est visé dans la loi, c'est cet acte précis et qu'on ne doit pas pouvoir en étendre la conception. Le juge ne doit pas pouvoir dire, vous voyez, cet acte, il ressemble à l'acte qui est incriminé. Donc, je vous condamne pour cet acte qui y ressemble. C'est cet acte précis. Ça s'appelle la sûreté. Ça s'appelle, c'est un droit fondamental. C'est une liberté fondamentale. C'est le principe de sûreté. Le principe de sûreté, il vous défend contre le pouvoir de l'État, le pouvoir du Léviathan. Eh bien, dans la loi de 1970, ces principes-là, alors excusez-moi, j'aurais dû aller plus loin, pour moi le principe élémentaire du droit pénal c'est élémentaire, mais comme je vous le disais, il faut le rappeler au juge, on fera parler aujourd'hui. Il y a un autre principe, c'est que la personne précise à qui est imputé un fait précis peut être condamné. Mais on ne peut pas condamner une personne pour des faits qui auraient été commis en groupe. Il faut que ce soit un fait précis imputable à une personne précise. L'infraction collective ne doit pas pouvoir être retenue. Ça n'existe pas, l'infraction collective. Il y a bien des infractions, si vous voulez, où les gens sont en réunion. Mais il faut que sur chacun puisse peser la charge d'avoir commis un fait ou de s'être rendu complice de la commission de ce fait. Donc, l'infraction collective, elle est honnie par notre droit pénal. Eh bien, la loi de 70, cette loi dite anti-casseur, elle prévoyait qu'on pouvait condamner quelqu'un parce qu'il appartenait à un groupe et qu'une infraction aurait été commise dans le cadre de l'action de ce groupe. Il y a eu des condamnations. Parce qu'après 70, il y a eu des mouvements sociaux encore. Et il y a eu des condamnations sur le fondement de la loi de 70. Mais en 81, comme je le disais tout à l'heure, la gauche est arrivée et on a eu des mesures symboliques. Qui n'était pas mince. L'abolition de la peine de mort, l'abrogation de la loi anti-casseur, c'était pas mince, c'était pas rien. On sera déçus après. On sera déçus. Mais, réjouissons-nous, en 81, c'est abouti. Plus de loi anti-casseur. On revient à un droit pénal plus classique. Et puis, le temps passe. Et puis, les mouvements sociaux, bien sûr, reviennent toujours et encore. 95, 2003, et puis les mouvements de 2006. Et alors, en 2010, eh bien, une nouvelle loi, la loi anti-bande. C'est plus la loi anti-casseur, c'est la loi anti-bande. Pas le même nom, mais l'idée est la même. L'idée est la même. C'est-à-dire que vous faites partie d'un groupe, une infraction est commise, et cette infraction qui a été commise dans le cadre du groupe, elle peut vous être imputée parce que vous faisiez partie de ce groupe. C'est bien une infraction collective. On ne peut pas vous imputer un fait précis pour un acte précis. En outre, une bande, qu'est-ce que c'est une bande ? À l'époque, vous savez, c'était la criminalité, c'était le temps de la criminalité, alors c'était les bandes qu'il fallait viser. On a toujours une cible hein, quand on édicte de telles lois. Donc, une bande, lui, ne sait ce que c'est. Mais le juge, il va juger que vous appartenez à une bande. Le Conseil constitutionnel a été saisi. D'habitude, il n'a rien trouvé à dire. La loi anti-bande, elle existe encore aujourd'hui. Il ne faut pas croire que c'est du passé. Parce que les Gilets jaunes qui ont été condamnés, ils n'ont pas été condamnés sur le fondement de la nouvelle loi anti-casseur de Macron. D'abord, pour la plupart, ils n'étaient pas encore édictés quand ils ont été condamnés. Ils ont été condamnés sur le fondement de la loi anti-bande. Pour un grand nombre d'entre eux. Elle existe aujourd'hui. Ce droit-là, il existe. Et à propos de la loi anti-bande, remarquez une observation. J'ai défendu en 2009, 2010, et puis encore bien longtemps après, encore très récemment pour Xavier Mathieu, les Conti. J'ai défendu au pénal, j'ai défendu au civil. Les Conti, vous vous en souvenez, Continental, 1120 licenciements, une grève, et puis une sous-préfecture mise à sac, comme disent les journaux. Elle n'a pas été mise à sac, la sous-préfecture. Oh, ils ont cassé quelques vitres, ils ont jeté quelques ramettes de papier par la fenêtre, quelques chaises. Et moi, on ne m'a jamais donné une facture, une facture. J'ai été chargée de toutes les affaires pénales. Je n'ai jamais eu sous les yeux une facture concernant la sous-préfecture. Simplement, les Conti, il fallait les punir. Eh oui. Pourquoi ? Parce que les Conti, c'était une lutte collective. Eh oui, ça a été vraiment une lutte collective. Les Conti, c'était une lutte collective particulière. Ils avaient constitué un comité de grève. Ils se réunissaient à une assemblée générale. Et tout ça, on en parlait. Et on voyait des images même à la télévision. C'est pas fréquent qu'on nous montre des images de lutte collective. Et en outre, cette lutte collective, elle a été victorieuse. Bien sûr, ils n'ont pas pu sauver leur établissement. Comment sauver un établissement dans cette économie mondialisée ? Quand on est un établissement de multinationales. J'ai vécu aussi la fermeture d'Aulnay, chez PSA. Un étudiant nous disait un jour au cours d'un débat, vous n'avez pas eu l'idée de faire comme chez VIP et de vous emparer de l'entreprise et de faire un trésor de guerre. Le secrétaire du syndicat qui était là lui dit, mais mon gars, les voitures, nous, on assemblait des composants qui nous viennent du Japon. Des portes qui venaient de Cergy, des boulons qui venaient de je ne sais pas où. Il était où notre trésor de guerre ? Hein ? On n'arrive pas à sauver les établissements, pas raconter l'histoire. les comptes, ils ont obtenu ce qu'aucun n'avait obtenu. Ils ont obtenu des conditions de départ assez exceptionnelles. Ils ont coûté très très cher à Continental. Et ça, ça ne se pardonne pas. Ça ne se pardonne pas quand c'est conquis par la lutte. Et donc dans ces cas-là, il faut une condamnation pénale. Attention, on va voir comment ça se passe. D'abord, premier point sur les Conti. Les Conti, ils étaient 300 dans la sous-préfecture. 300. On en a traduit 7 devant le tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel juge. Ils ne sont pas courageux, c'est parce qu'ils les distinguent. Ah, c'est vrai. Ils ont prêté serment sous les dents, enfin bref. Bon, à tous, il y a des individualités. Mais quand même, leur marque culturelle, ce n'est pas le courage, ce n'est pas l'audace. Simplement, ils savent aussi faire de la communication. Et donc, on en avait 7 devant le tribunal correctionnel. Alors, on en a condamné 6, mais on en a relaxé 1. Comme ça, on a dit que les juges étaient justes. Ah oui, mais étaient-ils justes? Voilà, c'est la question. Parce que les juges, ils les ont condamnés, ces 6 salariés, ces 6 syndicalistes, parce que c'était 6 membres du comité de grève, 6 cégétistes. Comme par hasard. Et donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait plus que les autres? Qu'est-ce qu'ils avaient fait moins que les autres? Ils étaient présents sur les lieux. Ils étaient poursuivis pour avoir dégradé le bien d'autrui. Plus grave, autrui, c'était l'État. Donc, ils étaient traduits en justice pour cela. Mais la poursuite pour dégradation du bien d'autrui, c'est une infraction qui suppose un élément constitutif particulier. C'est-à-dire qu'on doit vous mettre sous le nez le bien dégradé. Eh bien oui, ça paraît logique. Moi, on ne m'a jamais montré un bien dégradé. On m'a montré des images de télévision. Des gens qui faisaient des gestes, allez, je vais leur faire plaisir, on va dire violents. C'est-à-dire des gestes de colère, surtout. Bien, on ne m'a jamais montré un bien dégradé. On a dit qu'ils étaient là. Et il y a eu des biens dégradés. Ils étaient là, ils étaient 300, il y en avait 6. On en a pris 6, on en a condamné 6. La loi anti-bande n'était pas encore entrée en vigueur, à tel point que Mathieu Bonduel, qui était alors secrétaire du syndicat de la magistrature et qui était venu nous soutenir, avait déclaré, mais comment ? C'est une résurgence de la loi anti-casseur et vous anticipez, elle était en débat à l'Assemblée nationale, la loi anti-bande. Elle n'était pas en vigueur. Vous croyez que ça a gêné les juges ? Ben non. Ils les ont condamnés pour dégradation bien d'autrui parce qu'ils étaient là. Ils ont appliqué la loi anti-bande alors qu'elle n'était pas encore édictée. C'est vous dire à la fois la puissance et la faiblesse du droit. Je crois qu'il faut y insister sans cesse. Et donc la loi anti-bande, elle a été édictée. Et je vais continuer ma saga, pas judiciaire, ma saga juridique, si je puis dire, toute petite saga. Il y a eu ensuite les attentats. Il y a eu 2001. Ça a frappé les imaginations, il y a de quoi. Il y a eu 2001, il y a eu toute cette vague, tout ce discours autour des attentats. Enfin, djihadiste est venu il y a 15 ans, personne ne savait ce que c'était qu'un djihadiste. Maintenant, c'est un nom commun, un djihadiste. Tout cela pénètre les esprits, tout cela pénètre l'imaginaire collectif. Et avec cette question des attentats, qu'est-ce qu'on a pu faire ? On a pu instaurer l'état d'urgence. On a pu instaurer l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est la loi de 55. C'est la guerre d'Algérie. J'allais dire, souvenez-vous. Même moi, je ne me souviens pas. Je suis pas très jeune. Je ne peux pas me souvenir. Eh bien, On a instauré l'état d'urgence. Et on a renouvelé l'état d'urgence. Puis un jour, il fallait arrêter l'état d'urgence. Parce que l'état d'urgence, par définition, ça ne peut pas durer toujours. C'est parce qu'il y a une urgence. C'est comme la crise en matière économique, vous savez. Ça fait 30 ans qu'on me plaide la crise, moi. Mais là, l'état d'urgence, ça durait, Il fallait l'arrêter. C'est Macron qui l'a arrêté. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il les a mis dans le droit commun. La loi du 30 octobre 2017. Mais avant, on a eu, en 2012, le code de la sécurité intérieure. Le code de la sécurité intérieure, il a été édité en 2012. Enfin, il n'a pas été édité, il a été mis élaboré en 2012 et il a été édité par la loi de 2014. C'était bien avant. Le code de la sécurité intérieure, il contient tout ce qu'il faut pour vous infliger des peines qui ne sont pas des peines pénales, qui produisent exactement les mêmes effets que les peines pénales. C'est-à-dire qu'on a construit un droit, excusez-moi, une espèce de néologisme un peu bizarre, administrativo-pénal, ou pénalo-administratif, qui produit les effets du droit pénal, sans les garanties du droit pénal. C'est-à-dire qu'on a transféré au pouvoir administratif, c'est qui le pouvoir administratif? C'est l'exécutif, c'est le gouvernement, pour être précis. C'est le pouvoir en place. Ce qui devait être contrôlé par le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire n'est pas parfait. Le pouvoir judiciaire, il est même très défaillant, bien souvent. Il est parfois partial, même souvent. Mais moi, devant le pouvoir judiciaire, je peux exiger certaines choses. Je peux y aller. Il y a des limites qui ne peuvent pas dépasser. Lorsque c'est inscrit dans le droit administratif, lorsque c'est la juridiction administrative qui est tout entière habitée par ce qu'on appelle dans notre jargon la théorie du ministre-juge, eh bien, là, les garanties, elles disparaissent. Je crois que cela, il faudrait le faire savoir partout. J'ai envie de le crier sans cesse. Moi, on ne m'invite pas à la radio, on ne m'invite pas à la télévision. C'est sûr. Mais il faudrait que ça se dise. Alors, certains l'ont dit. Il faut le dire. Ce sont des spécialistes. Madame Delmas-Marty, qui n'est pas une dangereuse révolutionnaire, c'est un prof de droit tout à fait classique, prof de droit pénal. Elle alerte, ça fait 5 ans. Ça fait même bien plus que ça. Dès 2008, elle alertait. Elle a alerté parce qu'en 2008, il y a une autre chose. Je fais juste une petite incidente. Vous me la permettrez. Parce que ça aussi, ça a son importance en droit pénal. En 2008, on a édicté une loi particulière. C'était sous Sarkozy, ça aurait pu être sous Hollande, ça aurait pu être sous Macron, ça aurait pu être sous Jospin, ça aurait pu. Voilà. On a édicté une loi qui permet quoi? Quelque chose d'insensé. Ici, en France. C'est-à-dire que, en vertu de cette loi, on peut maintenir, non pas en prison, mais en détention, en rétention, je ne sais pas comment on peut appeler ça, à l'écart de la société, enfermé, quelqu'un, non pas parce qu'il a commis un acte, mais parce qu'il en a commis un dans le passé pour lequel il a été condamné et pour lequel il a exécuté sa peine. Dans notre droit, quand vous avez exécuté votre peine, quand vous avez payé votre tribut à la société, vous êtes quitte. Nul ne peut vous maintenir en détention, bien si. Cette loi, elle a été édictée pour qui? Elle a été édictée pour les délinquants sexuels. Ça commence toujours comme ça. Parce que les délinquants sexuels, personne ne les aime. C'est normal. C'est pas tentant, les délinquants sexuels. Mais est évité pour les délinquants sexuels, qu'on peut maintenir en détention, non pas parce qu'ils ont effectué leur peine et n'ont commis aucun nouvel acte, mais en raison de leur dangerosité. C'est pas en raison de ce qu'ils ont fait, c'est en raison de ce qu'ils sont. À partir du moment où on peut punir quelqu'un en raison de ce qu'il est, plus de droit. Parce que c'est parce que vous êtes dangereux, mais vous pouvez être dangereux parce que vous êtes politiquement incorrect, parce que vous êtes roux, parce que vous êtes brun, parce que vous êtes jaune, parce que vous êtes bleu, parce que vous êtes noir. Il suffit. En haut, on décide que vous êtes dangereux, vous appartenez à une catégorie de personnes dangereuses, donc on pourra vous punir. Cette loi 2008, c'est ça. On vous dit qu'il faut que je passe à ma partie 2, mais tant pis, je la raccourcirai. Et donc, je vais en finir avec celle-ci. Je te remercie. Je vous remercie. Je suis et donc,
c'est pas facile de faire le boulot.
Et donc, le. Comment dire ? Parce qu'à partir du moment où on peut vous punir parce que vous êtes quelque chose, ça est extraordinairement. Alors, ah non, j'allais. Le français est pauvre, j'allais dire extraordinairement dangereux. Et redoutable, on va trouver un autre mot. Cette loi de 2008, c'est quoi ? Elle est inspirée d'une loi de 2004 en Allemagne. C'est pas une loi de 2004 en Allemagne. En 2004 en Allemagne, on a remis en vigueur une loi qui avait été dictée sous le nazisme. Eh bien oui, notre droit il s'inspire de cela. Mais oui, j'ai pas envie de faire du catastrophisme. Je vous parle de notre droit. Juste un mot encore là-dessus. Je vais aller vite pour faire plaisir à notre camarade. Mais en la loi 2008, elle a été édictée pour les délinquants sexuels. Mais ce qu'on appelle le FNAIC, par sentiment. Le FNAIC, c'est, vous savez, ce fichier des empreintes ADN. Demain, vous êtes mis en garde à vue. On peut prendre votre empreinte ADN et aller au FNAIC. La mise en garde à vue autorise à prendre votre fichier, votre ADN et de vous ficher au FNAIC. La garde à vue, c'est qu'on va de l'éthique, hein, tout simplement. Et cette loi sur le FNAIC, c'est Madame Guigou qui l'a initiée. Elle a initié avec d'excellentes intentions. C'était pour ficher les délinquants sexuels. Puis après, Sarkozy l'a étendu. Après, Vaillant. C'est pas Sarkozy, Vaillant, hein. C'est un socialiste, si je me souviens bien. L'a étendu. Et après, on l'a généralisé. Maintenant, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Il y a des millions de Français qui sont fichés au FNAIC. Alors, attention. Ce consentement à la loi, attention. Ne soyons pas consentants. Et le terrorisme, ça a servi à ça. La rhétorique de la violence, ça a servi à ça. Je n'ai pas le temps de développer beaucoup. Juste, cette dernière loi, cette loi dite anti-casseur, on va l'étendre énormément. On a déjà le code de la sécurité intérieure de 2014. On a déjà, avant cela, la loi anti-bande 2010, le code de la sécurité intérieure 2014, possibilité d'assignation à résidence, de créer un périmètre de sécurité. Un périmètre de sécurité, c'est un périmètre de surveillance. Possibilité de tous ordres de vous faire des interdictions. Tout cela, on l'avait déjà. Seulement, quand il y a eu le gilet jaune, un événement, une loi, c'est l'effet performatif du droit. C'est-à-dire un événement, des gens qui font peur, il faut en rassurer d'autres. Et avec les gilets jaunes, on a fait peur au patron. Ça, c'est les gilets jaunes qui ont fait peur au patron. Ils ont raison. Là-dessus, voulais leur faire peur, de manière plus ample, plus organisée. Mais on n'a pas fait peur qu'au patron. On a fait peur à des tas de gens. On leur a dit en plus, ils vous perturbent vos ronds-points, ils vous perturbent votre métro, ils vous perturbent toutes sortes de choses. On leur a fait peur. Et c'est quoi? C'est le début de la gabegie, c'est le début de l'anarchie. On n'est plus en République, disent-ils. On n'est plus dans un état de droit, mais ce sont eux qui saccagent l'état de droit. Qui ne racontent pas d'histoire avec leur état de droit, quand même. Et donc, il fallait une loi. C'est de la communication. C'est de la communication. Elle n'a pas apporté des tonnes de choses, cette loi. Mais elle fait peur. C'est l'effet performatif du droit. Il y a des infractions. Et puis, vous pouvez maintenant, quand vous avez deux dosettes de sérum physiologique dans votre sac, vous avez une infraction. Quand vous avez un masque, là, contre la poussière, vous êtes en infraction. Vous pouvez, vous êtes tous des délinquants potentiels. Il faut le savoir, quand même. Bien ça, c'est l'état de droit d'aujourd'hui. Je vais passer à ma seconde partie. Je vais passer à ma seconde partie, je vais la faire brève parce qu'elle va se développer dans notre débat. C'est quoi ma seconde partie? Il y avait un juriste que moi j'aimais beaucoup, que je n'ai jamais croisé, mais j'aimais beaucoup ses écrits. C'était un vieux prof de droit, un vieux communiste, un sale, il y a la chose comme elle sont. Tout le monde, personne n'est parfait. Mais il était intéressant. Et il disait, le droit est une technique réversible. Ça, moi, quand j'étais étudiante en droit, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir et je n'ai jamais cessé de réfléchir à partir de cette phrase. Le droit est une technique réversible. Bien dire ça, c'est dire que la peur, elle peut changer de camp. Le droit, moi, j'aime la matière. Je dis, j'aime la matière sur le plan intellectuel. C'est amusant, c'est comme les maths. On peut en jouer, on peut y jouer. Mais c'est autre chose. C'est un instrument. C'est un instrument. C'est un instrument qui n'a pas été construit pour les travailleurs. Notre droit, nous ici, notre droit, notre constitution, tout ce qu'on vit, est fondé sur le droit de propriété. La révolution de 1789, cette révolution bourgeoise, elle a mis comme point central à notre droit le droit de propriété. Elle nous a apporté des tas de choses. Tout à l'heure, je parlais de la déclaration des droits de l'homme. Mais bon, dans la déclaration des droits de l'homme, un des principaux droits fondamentaux, c'est le droit de propriété. Le droit de propriété a une telle prééminence que le droit du travail, eh bien, c'est aussi un droit du propriétaire. C'est un droit du propriétaire, puisque le patron, parce qu'il est propriétaire, propriétaire de quoi? Nous, on disait dans notre jeunesse des moyens de production. Ça devient des gros mots maintenant, mais c'est un peu ça quand même, hein, si on regarde concrètement. Eh bien, parce qu'il est propriétaire, il a le pouvoir. Son pouvoir est fondé sur son droit de propriété. Et ça, ça crée une asymétrie considérable dans la relation. C'est Michel Foucault qui disait que lorsqu'il y a une asymétrie telle qu'il n'y a pas de réciprocité possible, eh bien, la violence est là. Tout à l'heure, je vous parlais de la violence qu'on impute aux militants. Eh bien là, on va parler de la violence qui est subie par les travailleurs. Et notre droit, il est fait comme ça. Il est fait de cette asymétrie fondamentale. Mais dans le droit du travail, grâce aux luttes ouvrières, bien, on lui a enlevé petit à petit des morceaux de pouvoir au patron. Le principe, c'est le pouvoir du patron. On le voit tous les jours. Moi, quand quelqu'un vient me dire, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Je dis non, il n'a pas le droit, mais tu sais, il va le faire. Il va le faire parce qu'il est le plus fort. Pourquoi il est le plus fort? Parce qu'il est le plus riche. C'est aussi bête que ça. Tu as besoin de ton boulot, il n'a pas absolument besoin de toi. Voilà, la symétrie, elle est là. C'est une extrême violence. Et toute la relation de travail est imprégné de ce rapport de pouvoir. Eh bien, dans ce droit du travail, terriblement imparfait, énormément déconstruit, parce que moi, quand j'ai commencé à être avocat, on avait quand même un peu plus de garanties à donner aux travailleurs. On nous les enlève. N'inquiétez pas, on les retrouve toujours. Mais on arrive toujours à en faire un instrument et à les défendre avec. On y arrive. Aujourd'hui, on en est parfois réduit à aller chercher dans le droit européen. Eh oui, droit à la sécurité, la santé au travail. C'est encore un peu construit tout ça. On va chercher là-dedans. Quand on veut empêcher une entreprise de se réorganiser, eh bien, on démontre que la manière dont est conduite la réorganisation met en danger la santé, la sécurité au travail. C'est un arrêt SNECMA de 2008. Cette mise en danger de la santé et de la sécurité au travail nous permet d'interdire à l'employeur de mener sa réorganisation comme il le voudrait. Je vais vous dire qu'on gagne hein, souvent là-dessus. Je vous disais tout à l'heure que les magistrats n'étaient pas des audacieux. Ils ne sont pas du côté des travailleurs quand même majoritairement. Mais on y arrive. On y arrive quand même. On s'appuie sur les droits fondamentaux. Je vais vous donner un exemple. L'exemple de Ghislaine Joachim-Arnaud, je trouve que c'est un excellent exemple. C'est un excellent exemple parce que Ghislaine Joachim-Arnaud, c'est la secrétaire, elle ne l'est plus depuis l'année dernière, mais pendant 25 ans, elle était secrétaire de la CGT Martinique. En 2009, elle a été une des figures emblématiques des grèves qui ont eu lieu. Vous vous en souvenez, ces grèves, le mouvement 5KF. Ça a fait peur jusqu'ici aux patrons. Il faut le dire, il faut le répéter, ils ont peur, ils ont facilement peur. Il faudrait juste appuyer un peu, ils auraient encore plus peur. Et elle était une des figures emblématiques de ce mouvement. Il a été victorieux. Vous voyez le mécanisme, souvenez-vous les contis. Magistène, c'est un peu la même histoire. En Martinique, la classe possédante, ce sont les béquets. Les béquets sont les héritiers des anciens esclavagistes. Il y a des blancs, il y a des noirs chez les béquets. Eux, ils ne sont pas héritiers physiquement, mais ils sont héritiers financièrement. Ce n'est pas une question de race. C'est une question de classe. Et les béquets, eh bien, ils en voulaient terriblement à Ghislaine Joachim-Arnaud. Ou du moins, ils en voulaient terriblement à la classe s'était soulevé et qui avait gagné quand même ces 300 euros, qui avait gagné quand même des baisses de prix. Quand même, cette victoire-là, il en voulait beaucoup. Il fallait une condamnation. Il fallait une condamnation. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les béquets? Les héritiers des esclavagistes, ils ont poursuivi l'arrière-petite-fille d'esclaves en incitation à la haine raciale. Ils l'ont accusé de racisme. Le droit est une technique réversible. Les patrons le savent. Sachons-le aussi. Ghislaine a été traduite en correctionnelle. J'ai eu l'honneur de la défendre. Eh bien, je n'étais pas seule, nous étions quatre. Deux Martiniquais, un Guadeloupéen et moi. Eh bien, en première instance, allez-vous me croire, on l'a condamnée. Qu'est-ce qu'elle avait commis comme méfait? À la fin d'une émission de télévision, elle avait dit, la Martinique, elle avait dit en créole, c'est bien plus joli, mais je vais l'écorcher, donc j'ai envie de le dire quand même en français. La Martinique, c'est à nous, c'est pas à eux. Bande béquet, béquet en créole, c'est patron. Bande de patrons, profiteurs, voleurs, on va les foutre dehors. Et on l'accusait d'avoir dit qu'elle voulait jeter les béquets, qui étaient des blancs, à la mer. Le droit est une technique réversible. Et donc, on l'accusait de cela. Et il s'est trouvé un tribunal correctionnel, qui était une caricature. Il y avait trois juges blancs et une salle de noirs, c'était assez drôle. Et pour condamner Gisèle Jouachard-Arnaud pour racisme. Parce qu'elle avait dit cela, on avait beau expliquer, les béquets, ce sont les patrons. La lutte du 5KF n'a jamais été une lutte anti-blanc, anti-race, qui ne disait pas honorant. C'était une lutte de classe. Et c'était très clair. Et au cours de son interview, elle avait été très claire à cet égard. Peu importe qu'on leur ait expliqué ça. Peu importe qu'on soit donné mal, nous, d'aller chercher dans des dictionnaires, etc., etc., sur l'histoire du mot béquet, etc. On n'en avait rien à faire et ils l'ont condamné. La cour d'appel de Fort-de-France l'a relaxé. Il y a eu une mobilisation importante. C'était un beau procès. Un mot personnel, pour moi, c'est un des plus beaux souvenirs. Magnifique. On venait en cortège, à l'audience, on investissait le tribunal en chantant. C'est un tribunal neuf, moderne. Il retentissait des chants qui avaient été chantés durant la grève. C'est peut-être ça qui n'a pas supporté le tribunal correctionnel, au demeurant. Mais en revanche, à la cour, ils ont entendu. Ils ont entendu que c'était une affaire de classe, que ce n'était pas une affaire de race. Sur quoi nous étions-nous fondés ? Nous étions fondés sur le principe de la liberté d'expression. Ils en ont plein la bouche de l'autre côté de la liberté d'expression. Plus ils en parlent, moins ils l'autorisent. C'est connu. Vous savez la définition psychanalytique de l'exhibition. C'est montrer ce qui n'existe pas. Eh bien, en matière de liberté d'expression, c'est exactement ça. Nous nous sommes fondés sur cette liberté fondamentale de la liberté d'expression. Bien, de la même manière, dans d'autres affaires, chez Cerver, vous savez, c'est cette compagnie qui fabrique les plateaux repas des avions. Chez Cerver, ils avaient pris la manie de licencier un gréviste chaque fois qu'il y avait une grève. C'est pour qu'il n'y en ait plus. C'est bête, hein? Et voilà. À chaque fois, on les faisait réintégrer. C'est bête aussi, ça les ennuyait beaucoup. Pour vous dire comme ça les ennuyait, c'est que quand on faisait réintégrer les travailleurs, ils gagnaient 1400, 1500 euros par mois. On leur proposait 100, 150 000 euros pour qu'ils ne reviennent pas. C'est vous dire si les patrons ont peur de ces réintégrations. Vous voyez comment on peut leur faire facilement peur quand même. Il faut qu'on s'en donne un cœur joie de leur faire peur. C'est vrai. Je vais en finir. C'est en se fondant sur ces libertés fondamentales et on va en découvrir d'autres en discutant que la peur changera.
Circuler dans la salle. Ah, si on a un micro ?
On va essayer.
Oula, c'est interdit, mais...
On va essayer de pas...
Si, voilà, si vous souhaitez la parole, ben, faites un petit... signe.
Bonjour, j'aurais deux questions. La première, c'est est-ce qu'on peut s'opposer aux empreintes génétiques pour ce fameux fichier et dans quelles conditions on peut le faire. La deuxième question, c'est il y a un code de déontologie pour les forces de l'ordre, police et gendarmerie. Il n'est jamais respecté à l'heure actuelle. Comment le faire respecter? Vous le connaissez, c'est le code 435, etc., etc. Il y en a tellement. Notamment l'intégrité physique et psychologique d'un garde à vue, puisqu'on est sous la responsabilité des forces de l'ordre, et il faut voir ce qui se passe dans les prisons. Les WC qui sont bouchés, les cellules qui sont dans un état déplorable, c'est indigne. Parfois même, on est très souvent insulté, parfois battu. On n'a aucune preuve, car les forces de l'ordre sont des gens assermentés. C'est parole contre parole. Les enquêtes de l'IGPN, n'en parlons pas. On ne peut pas être jugé parti. Donc la lutte sera dure. Mais on sera là.
Bon, alors sur le prélèvement d'ADN, non, on n'a pas le droit. Refuser de laisser prélever son ADN, c'est un délit. C'est un délit pénal. J'ai défendu Xavier Mathieu, justement, non seulement dans le cadre de l'affaire de la sous-préfecture, mais il a été le seul des six à refuser qu'on prélève son ADN, par principe. Il a été condamné de nouveau. Des peines très symboliques, mais condamnées. Pourtant, en première instance, il avait été relaxé. Et on avait un très beau jugement, fondé sur la loi informatique et liberté, qui veulent mettre en pièce tout de suite. Mais en appel, ils l'ont condamné. On ne peut pas. Ensuite, sur l'état déplorable des prisons, sur le fait que les flics ont tous les droits, moi, je ne peux rien dire de plus. On le sait. Quand on est en garde à vue, on est de l'autre côté du mur. Alors, l'avocat à la première heure, c'est déjà quelque chose quand même. Oui, mais ils ne peuvent pas empêcher que l'avocat vienne à la première heure.
Il est souvent indisponible.
Oui, absent.
On l'appelle, mais on ne peut pas le voir.
Alors, je ne sais pas, nous, on s'organise. Voilà. Les militants, non, ils ont un numéro. Hein.
Non, mais c'est pas réel. C'est ce qui est annoncé.
Oui, mais si l'avocat vient ensuite démontrer qu'il était disponible, voilà. Hein. Mais ça suppose quoi? Pour tout, enfin, la lutte est dure. La lutte est dure, c'est toujours dur, la lutte. Hein. C'est comme ça. D'ailleurs, ça veut dire ça. Hein. C'est une question d'organisation aussi. Et tout, sans arrêt. Moi, je me souviens, je ne vais pas être trop long, parce que je les avais prévenus. Ils m'avaient dit, est-ce que vous allez tenir une heure? J'ai dit, mais attendez, nous, il faut nous arrêter.
C'est ce que j'ai fait.
Mais, du coup, je perds le fil. Lorsque il y avait eu l'histoire des nuits debout, il y avait eu ces problèmes de garde à vue, etc. Puis moi, je me souviens d'une conférence, c'était pas moi qui faisais la conférence, c'était un sociologue qui avait fait une étude sur Podemos. Et sa conclusion, c'était quoi? C'était faites pas comme eux, organisez. Voilà.
Juste pour revenir sur la question des gardes à vue, est-ce qu'on peut faire annuler l'ensemble des charges retenues
L'ensemble de la procédure.
L'ensemble de la procédure, voilà, si on peut démontrer qu'il y a vice de procédure lors de la garde à vue, si l'officier de police judiciaire ne respecte pas la procédure, est-ce que la procédure est caduque de fait?
Non, elle n'est pas caduque. ça ne s'appelle pas comme ça, mais la procédure tombe, elle est nulle, au sens juridique du terme. Il faut le démontrer, hein.
Et les prises en compte restent dans le fichier indéfiniment.
Oui, moi j'ai trouvé sensationnel l'exposé. Si, parce qu'on n'entend quand même pas beaucoup de discours de cette manière et de la part de la magistrature.
Je ne suis pas magistrat,
je suis avocat. Oui, c'est vrai, avocat, mais enfin, dans la partie judiciaire.
Pas les mêmes. Bon,
oui, c'est exact. Simplement, je voulais dire, j'ai entendu une conférence il n'y a pas très longtemps, c'était sur France Culture, c'est Geoffroy de la Garderie qui disait, je ne sais pas si vous connaissez le personnage.
Si, si. Bon. De la Garderie. Geoffroy de la Garderie.
De la Garderie.
Il vient d'écrire un livre à propos de l'affaire Traoré, qui est un livre très intéressant.
Voilà, et justement, j'ai écouté vraiment attentivement son discours, parce qu'il fait rentrer vraiment lui, la sociologie, justement, qui amène forcément quelquefois à des gens à devenir violents vis-à-vis, justement, il retourne. Cette violence qui est celle de l'État, en fait, est souvent celle de l'État ou celle des multinationales, du capitalisme, comme a dit Frisidier ou autre. Et qu'en fait, en face, ils font l'inverse, ils retournent en fait théorie pour la stratégie de la peur, ce que vous avez parlé tout à l'heure, pour justement, à un moment donné, qu'il y ait de la répression qui soit légalisée. Quoi. Et ce que je voulais dire, c'est est-ce que vous avez eu vent d'un courrier qui émanait de la ministre de la garde des Sceaux, de la justice, à l'intention de l'ensemble des procureurs, qui invitaient justement les procureurs à être vivement très durs vis-à-vis des gilets jaunes, notamment des gilets jaunes très pacifiques. Et dans un deuxième alinéa, il apparemment était mentionné qu'il fallait être très tolérant vis-à-vis des gens qui, s'ils avaient des affaires sur les gens qui avaient été croisés, voilà. Est-ce que vous avez eu le droit de ces courriers?
Alors, il y a pas que c'est pas un courrier, c'est une circulaire.
Excusez-moi.
C'est une circulaire, mais j'ai pas eu le temps d'aborder une question dont je traite dans une contribution que j'ai faite récemment. Nous avons organisé avec une revue qui s'appelle Chronique ouvrière, que vous pouvez trouver sur Internet. J'ai commis une contribution parce que nous avons organisé un colloque, et dans cette contribution, je montre la manière dont le ministère public est soumis, mais c'est pas, j'ai pas besoin de le montrer, c'est la Constitution, c'est la loi. Le ministère public est hiérarchiquement dépendant du ministre de la Justice. C'est-à-dire que le ministère public, ce ne sont pas des magistrats, c'est le bras armé du gouvernement. Cette circulaire du garde des Sceaux, eh bien, elle est parfaitement légale, puisque le garde des Sceaux, par circulaire, organise la politique pénale qui doit être menée par les parquets. Les parquets, ce sont ceux qui poursuivent. Je n'ai pas le temps de détailler, si vous voulez, on pourrait discuter comme ça pendant 3 jours. Mais cette politique pénale, c'est la politique pénale décidée par le gouvernement. Le gouvernement, par voie de circulaire, la transmet aux parquets généraux. Les parquets généraux la diffusent dans les parquets, dans chaque parquet, et les parquets poursuivent en fonction des décisions du gouvernement sur la politique pénale. Donc, soyez sévères avec les gilets jaunes, ils seront sévères avec les gilets jaunes, ils poursuivront. Puisque le parquet poursuit en fonction de l'opportunité des poursuites. Il est juge de l'opportunité des poursuites. Il n'a pas à motiver le classement sans suite, il n'a pas à motiver la poursuite. Il est seul juge de l'opportunité des poursuites. Donc il vous renvoie en justice parce qu'il estime opportun de vous renvoyer en justice. Et n'a à en rendre compte à personne. La politique pénale, c'est ça. C'est vous poursuivrez les uns, vous ne poursuivrez pas les autres. C'est l'organisation judiciaire.
J'ai lu la semaine dernière sur Politis un article d'un journaliste dont je ne me rappelle pas le nom, qui fait une analyse sur la violence actuelle, notamment par rapport aux gilets jaunes. et qui dit que l'État s'est servi des policiers, on l'a tous vu, on l'a subi, de par une extrême violence, et qu'aujourd'hui la police a pris le dessus, l'État ayant peur maintenant des gilets jaunes, enfin, de ce qu'on représente, et qu'aujourd'hui elle est dépassée, l'État est dépassé par la police, et qu'on pourrait, c'est une analyse qui a été écrite, je ne sais pas si elle est, je vous demande votre avis, et qu'aujourd'hui la police serait presque au-dessus des politiques, quoi. Et c'est extrêmement inquiétant. Voilà, c'est une analyse d'un journaliste. Voilà, je vous la donne comme telle.
Voilà. Il faudrait lire toute son analyse.
Oui, bien sûr.
Jusqu'à nouvel ordre, on n'a pas eu de coup d'état militaire.
Non, on n'est pas là. Mais...
Voilà.
Bonjour. Je vais peut-être dire une évidence, mais on a quand même l'impression qu'avec ce mouvement des Gilets jaunes, on voit une précipitation de la répression et de la répression préventive. Je n'ai pas souvenir, dans l'histoire des mobilisations, d'arrestations préventives de ce type-là et aussi importantes. Il y a eu des milliers de personnes qui ont été arrêtées préventivement, même avant les manifestations. J'en ai vu un il y a quelques jours. J'ai vu une personne qui a témoigné en disant ben, « Moi, j'arrivais sur une manifestation ». Et effectivement, je m'étais protégé avec masque, avec pseudo-bouclier, etc. Et cette personne a été mise en garde à vue, procès immédiat, puisqu'elle n'a pas demandé à reporter le procès, et elle s'est retrouvée 4 mois de prison ferme. Il a passé 4 mois en prison.
Non,
alors, je n'ai pas.
Il n'a pas passé 4 mois en prison, il a fait appel.
Oui. Non, il n'a pas fait appel. Ou alors il m'a.
Il n'a pas fait appel.
Non, il n'a pas fait appel. Il a subi ça. Et vous savez, dans ce mouvement des Gilets jaunes. Parce que je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui se retrouvent dans ces mobilisations sans avoir, je dirais, d'environnement soit syndicaux, soit politique, et qui finalement ont subi cette répression. Enfin, ce que je voulais simplement vous dire, j'ai l'impression quand même qu'il y a une précipitation et que je ne me souviens pas, dans la description de manifestation, d'arrestation préventive comme maintenant. Voilà.
Mais ça, c'est vrai que c'est un phénomène qui est manifeste. Je crois que personne ne peut dire le contraire. Ce qu'il faut savoir, c'est je pense que le mouvement des Gilets jaunes, il fait très peur au pouvoir. Et la réaction est à la mesure de la peur du pouvoir. Ils veulent étouffer ce mouvement. Il semble que c'est un mouvement qui est profond, qui est polymorphe, et dont ils ne savent pas ce qui pourrait en sortir. Et ils en ont peur. Et la répression est à la mesure de cela. Effectivement. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que la répression à l'égard des syndicalistes, la répression à l'égard des militants, elle n'est pas nouvelle. C'est la répression à l'égard de tout ce qui bouge. C'est parce que les gilets jaunes bougent nombreux et qu'ils sont visibles, qu'ils sont fortement réprimés. Les militants qui bougent dans les boîtes sont réprimés. Moi, j'ai vu beaucoup de poursuites pénales. Au départ, je ne faisais que du droit du travail. Je me suis mise à faire beaucoup de droit pénal, parce que beaucoup de militants sont poursuivis. Et on a vu au moment de la COP21 des assignations à résidence de militants écologistes. C'est-à-dire que c'est vrai que la répression est, on ne va pas dire sans précédent, parce qu'il y a eu des vagues dans le passé qui étaient aussi importantes, mais il y avait très longtemps qu'on n'avait pas eu des vagues de répression comme cela. Mais je crois que le phénomène important à relever là, dans notre propos d'aujourd'hui, c'est qu'elle peut s'adresser à tout ce qui bouge. Ça, c'est le premier point. Et le point qui serait plus en lien avec ma seconde partie, un peu brève, c'est que le moyen de contrer ça, c'est de s'organiser. Parce que quand on entend que quelqu'un n'a pas à interjeter appel, parce qu'on sait bien que ces vagues de condamnation, elles sont là pour faire peur. Les Conti, ils ont pris de la prison avec des grosses peines en première instance. À chaque fois, on a le même phénomène. Grosse peine en première instance, un appel, une peine symbolique. Parce que la vague de répression, c'est pour faire peur, d'abord et avant tout. Et quand on est organisé, bien on fait appel. Et c'est l'organisation qui permet de lutter contre cela.
Si on garde un tour, on ne donne pas son nom. Qu'est-ce qui se passe ?
Il le trouve. Oh, ils finissent par le trouver. Et faites-leur confiance. Et en plus, là, si vous ne donnez pas votre nom, ils peuvent vous garder. Ouais. Il y a une limite de temps. Lorsqu'une personne désignée est mise en garde à vue, vous êtes personne si vous n'avez pas de nom. Yeah.
Bonjour. Entre deux questions de camarades gilets jaunes et autres, je voulais simplement vous dire merci. Moi, je suis militant syndical à Sud Solidaire et je suis cheminot. Vous venez de parler à l'instant de la répression antisyndicale, répression au sein des entreprises, qui est là, vous avez dit, avant, ça, par le passé, ça s'est déjà passé, c'est déjà arrivé. Et là, on subit de nouveau une vague sans précédent, depuis notamment en tant que cheminot. Je sais bien de quoi je parle, parce qu'il y a un an, on a fait un conflit dur et long de 3 mois et demi. Dont tout le monde se souvient, et on a subi un peu partout en France une répression féroce interne dans l'entreprise qui s'appelle la pure répression antisyndicale. Par tous les moyens, une répression organisée, planifiée, réfléchie par nos cadres dirigeants, et vraiment ça cause un problème de fond parce que ça atteint beaucoup de militants ici et là. Faut savoir, pour rappel, en France, il y a 57 dossiers disciplinaires lourds de procédures licenciement. Les 3/4 sont des militants Sudrail et 1/4 sont des militants CGT cheminots. Donc évidemment, la direction avec la connivence du gouvernement, évidemment, a ciblé ici et là systématiquement les têtes connues. Nous, bah, bien sûr, en Isère, on est 7 avec des procédures, heureusement pas de licenciement, mais des gens mis à pied ferme, sans salaire, avec mesures conservatoires ou pas. Et ça met un coup, enfin le but, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, donc je vous remercie simplement vous en tant qu'avocate pour votre engagement militant, parce que même vous êtes avocate, mais on sent l'engagement militant qui aide les personnes, qu'on soit gilet jaune, qu'on soit délégué syndical, militant, etc., il faut encore plus d'avocats, d'avocates comme vous qui aident les personnes, parce que je me rends compte, avec mes collègues, on en parle souvent, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui n'ont pas eu de formation, qui n'ont pas la connaissance de leurs droits encore, et vu la répression qu'on subit, que ce soit dans l'entreprise ou à l'extérieur, on a vraiment besoin d'avocats et d'avocates qui, justement, forment les gens ou qui leur réapprennent leurs droits, ou qui simplement font de la formation, auto-formation. Donc merci à vous.
C'est pas une question, mais je voudrais dire une chose, c'est que c'est pas moi avocate, c'est parce que moi je travaille avec des organisations. Je travaille avec des organisations. Et c'est pas moi individuellement. Moi individuellement, je représente rien. Si je suis toute seule dans la nature, je ne servirai pas à grand-chose. En revanche, avec des organisations, eh bien, ça produit quelque chose.
Oui, je vais juste réintervenir. Je suis aussi militant syndical, et camarade, là, ce qu'il a dit. Effectivement, sur l'affaire des cheminots, il y a vraiment eu un licenciement. C'est un camarade de Sud d'ailleurs qui a été licencié. Donc ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que seule la solidarité, parce que nous on l'a fait par exemple à Rumilly sur l'affaire de Tefal, c'était une inspectrice du travail qui a été condamnée, on s'est retrouvé plus d'un millier, on a fait une pièce de théâtre, il y avait Philoche qui était là et tout ça, donc on pensait qu'elle allait être relaxée, et malheureusement on a vu qu'ils ont continué la répression. Et je crois
ça a été cassé par la
Cour. Ça a été cassé, mais bon. Mais aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin de plus en plus de solidarité. Nous, on l'a fait. Moi, je suis de l'Ain. Il y a une fille de la maison de Lisieux aujourd'hui, qui est une maison qui est quand même vénérée par rapport à ce qui s'est passé dans cette maison, l'assassinat des enfants. Elle a une personne de la CGT là-bas qui est en ce moment devant les tribunaux. Bon, le problème qu'on a, c'est qu'on a vraiment des galères aujourd'hui vis-à-vis d'une remise en cause des prud'hommes, une remise en cause aussi des représentations syndicales. On a vraiment une cause du Code du travail, on a une cause de toutes sortes, et aujourd'hui, seule la solidarité et les mobilisations générales, c'est pour ça qu'on travaille à la convergence des luttes, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on y arrivera. Et je suis content de vous avoir entendu aujourd'hui.
Alors, il y a une prise de parole là, là-bas, monsieur, et puis après, enfin, une femme.
Donc, moi, ma question est simple. Quel est le coût moyen pour un gilet jaune qui serait mis en garde à vue quand il appelle son avocat, enfin un avocat, non commis d'office?
J'en sais rien. J'en sais rien parce qu'il n'y a pas de tarif d'avocat, ça n'existe pas. Moi, je peux vous dire qu'avec l'organisation Lutte Ouvrière, on y va gratuitement. Mais c'est parce que c'est avec l'organisation.
Bonsoir, merci pour votre présentation très intéressante. Dans le programme, il était prévu de parler un peu des lanceurs d'alerte. Et moi, il y avait une question, parce que ce que j'avais compris, c'est qu'il y avait une loi qui protégeait les lanceurs d'alerte. Et j'ai appris récemment que dans l'affaire, je crois que c'est LuxLeaks, sauf erreur de ma part, où Deltour s'en est tiré. Par contre, son collègue, qui était beaucoup moins intellectuellement aidé et soutenu par tout son entourage, quoi, lui a pris de la prison.
Oui.
Est-ce que vous confirmez et nous expliquez aussi...
Ça s'appelle de la justice de classe. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes pauvre et inconnu, vous avez plus de chances d'être condamné que si vous êtes riche et connu.
Bonjour, merci pour votre intervention. Ça rejoint beaucoup de préoccupations que j'ai eues en tant que fonctionnaire du ministère de la Justice. Et actuellement, je suis en congé à perpétuité, c'est-à-dire à la retraite. Et mon droit de parole se libère un petit peu, puisque je ne suis plus soumis à tout un tas de droits de réserve. Donc c'est vrai que tout ce qui a été développé par rapport à l'isolement des gens qui sont confrontés à la justice, par rapport à un système que l'on ne connaît pas, dans lequel on croit pouvoir s'en sortir tout seul, la première des choses, c'est vraiment de ne pas rester isolé. Que lorsque l'on manifeste, je vous conseille à tous ces gilets jaunes, tous ces gens qui ont envie de manifester, sur lequel il n'y a pas de rapport de force à établir, la contestation vient toujours sur le nombre de participants. Aujourd'hui, là, dans cette salle, vous êtes 322. Donc, parce que la salle, je vous ai compté, mais c'est aussi des bonnes. Donc je suggère, quand vous manifestez, de vous mettre par carré de 10. 10 sur 10. Ça fait 100 personnes. C'est facile à compter. Il n'y aura plus de concertation là-dessus. Parce que c'est vraiment là-dessus, vous êtes seul. C'est, vous êtes peu nombreux, vous ne représentez personne, etc. Donc en fait, aller manifester, ce n'est pas simple. Oser dire les choses, ce n'est pas simple. Mais quand on est en plus minimisé et réduit à la silence en disant vous ne représentez personne, ça c'est la pire des choses.
Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Je voulais juste avoir quelques conseils encourageants parce que quand j'entends qu'on est obligé de donner son ADN, de donner son nom, que la loi anti-casseur, etc., fait que le ministère donne ses indications et qu'ils jugent qui ils veulent, comme ils veulent, sans en avoir.
Pas les juges.
Non, mais le truc administratif. Voilà. Oui, mais il classe sans suite ou bien il attaque X ou Y selon son bon vouloir, ça fait un peu peur. Donc, concrètement, parce que je vais souvent dans des manifs, si on se fait arrêter, quel est le kit minimum de choses à faire à ne pas faire? Merci.
On avait construit un petit manuel de l'arrêté, mais il faut qu'on le revoie sans cesse, parce que les choses ne vont pas bien de ce point de vue. Donc, il est en révision, notre petit manuel de l'arrêté. Mais il n'est pas au point, là, pour l'instant. Comment ? Ben, on est en train, mais c'est compliqué.
Non, mais c'est plus dur.
Moi, je voulais savoir si, après tout ce mouvement, j'espère qu'on va gagner, si on arrivera à faire condamner le gouvernement, et tout ça, et s'il y a des choses qui sont faites. Et puis, moi, je voulais aussi dire ma crainte pour le week-end du 26 mai, comme c'est des élections européennes, qui est une forte répression vis-à-vis des gens qui manifestent pour les empêcher d'aller voter le 26 mai. Voilà.
Alors, faire condamner le gouvernement, je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt. En revanche, se battre contre, ça en a un, mais on ne peut pas condamner un gouvernement. D'ailleurs, on ne peut pas faire condamner pénalement l'État. Donc, c'est se battre contre, et se battre contre, et changer de système, peut-être. Non, vous parlez. Une atteinte aux personnes déjà, mais si vous vouliez dire faire condamner le gouvernement quand il y a des violences faites à une personne, ah oui, d'accord, là c'est plus précis. Je sais pas, je voudrais pas être pessimiste, mais ça va être difficile. Il y a des gens qui s'élèvent contre ça, mais en réalité, ils sont assez minoritaires.
Mais Pétain l'a été.
Quand est-ce qu'on les condamne? Quand il y a un changement de régime, quand même. Je ne sais pas si c'est vraiment...
Du coup, moi, je voulais juste intervenir pour dire que c'est vraiment très important, par les temps qui courent, de se rapprocher, notamment les gens qui ne sont pas proches de l'organisation, d'une part que les syndicats se mettent à disposition de ces gens-là pour un petit peu former et surtout de créer des collectifs anti-répression partout là où on est. C'est aussi ça qui peut nous rassembler et qui peut faire que effectivement chacun s'étaye un peu des expériences. Des contacts, etc., pour que les gens ne partent pas sur des choses sans numéro d'avocat à joindre, etc. C'est vraiment très très important dans toutes les villes d'où l'on vient de faire des collectifs anti-répression.
Il y a encore quelqu'un qui veut dire la parole?
Oui, c'est une réflexion qui vient de naître dans mon esprit à l'écoute de tout le monde. Est-ce que le 25, donc samedi prochain, ce ne serait pas plus adroit de notre part, parce que je suis aussi gilet jaune, de rester à la maison pour qu'on ne se retrouve pas des dizaines, voire des centaines en garde à vue pendant 24 heures, ce qui fait qu'on pourrait rater le jour des élections. Voilà, je le soumets à tous les gilets jaunes.
Cette assemblée est bien intéressante parce qu'elle devient un lieu d'organisation.
Je voulais juste quand même donner de l'espoir quand même aux gens. Au niveau des conseils de prud'hommes avec la nouvelle réforme et le fameux tableau des indemnités, il y a eu des appels qui ont été faits et les juges sont après mettre en place des jugements à l'encontre de ces barèmes. Donc il y a moyen de se battre.
Bien sûr qu'il y a moyen de se battre, on n'a pas arrêté de le dire.
Voilà. Je voulais quand même confirmer parce que j'ai peur qu'on parte sur le désespoir.
Non, alerter les gens sur le fait que les libertés publiques sont en danger, ça n'est pas se mettre au désespoir, c'est se préparer à se battre.
Question de s'organiser, enfin, j'ai une idée qui me traverse l'esprit pour le mouvement aille jusqu'au bout. Enfin, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on bloque quelque chose de plus pour qu'on avance. Moi, je pensais aux raffineries ou aux pompes à essence plutôt que les ronds-points. Et du coup, est-ce que lorsqu'on bloque, admettons les raffineries, est-ce qu'on peut aller devant le pénal pour une action de ce genre-là?
Bien sûr que vous pouvez aller devant le pénal. Bloquer, c'est bien quand on sait pourquoi on bloque, voilà, et à quoi ça va servir dans le temps. Par ailleurs, moi j'ai défendu beaucoup d'affaires de séquestration, de blocage,
des membres d'expulsion quand des grévistes bloquent une boîte. En réalité, quand on nous demande, on travaille avec eux, quand on nous demande est-ce qu'on a le droit, etc. Eh bien, quand vous ne vous faites pas prendre, vous avez tous les droits.
J'ai deux questions. Je voulais savoir pourquoi il y a des poursuites pour les condis et par contre, quand il y a on déverse du fumier devant une préfecture, il n'y a pas de poursuite. Et la deuxième question, c'était est-ce que les juges vous dites qu'ils ne sont pas. Vous avez dit qu'ils ne sont pas.
Audacieux.
C'est dû à leur formation ou aux pressions qu'ils subissent?
Alors, sur la différence concernant les poursuites selon le statut des personnes, c'est vrai. C'est vrai qu'il ne fait pas bon être ouvrier et bouger. Et il ne faut surtout pas bon d'être ouvrier et se retrouver devant un tribunal correctionnel. Écoutez, je parlais tout à l'heure des neufs de Renault, de PSA. Je confonds toujours Renault et Peugeot parce que je passe une grosse partie de ma vie contre les deux. Et quand on est arrivé devant le tribunal correctionnel, on était tous là et on avait des choses à dire. Mais quand on est entré dans la salle et qu'on a vu les juges, rien qu'à la manière dont la présidente a demandé leur nom aux neuf prévenus, on a compris qu'ils étaient condamnés. Il ne fait pas bon d'être ouvrier devant la justice. C'est vrai. Alors c'est vrai qu'il y a une tradition qui fait que, je crois que c'est parce que les paysans sont considérés comme conservateurs. Ce n'est pas toujours vrai, parce qu'il y a eu des paysans qui ne le sont pas. On a vu des paysans qui se sont organisés à certains moments et qui se sont battus, notamment contre les prélèvements ADN. Il y a eu un très fort mouvement de la Confédération paysanne, et qui avait des positions intéressantes d'ailleurs. Mais il vaut mieux être un paysan et déverser du fumier que d'être un ouvrier et déverser du fumier. Je vais vous raconter une petite histoire à cet égard. Un jour, les travailleurs de Renault Le Mans s'étaient mis en grève et les cadres avaient été mobilisés par leur direction. Les cadres chez Renault, ils ont des blouses blanches. Ça ressemble un peu à l'armée Renault. Ils ont des blouses blanches et ils gardaient les entrées de l'usine, les cadres. Ils étaient en blouses blanches, ils avaient des boucliers parce que ils avaient quelque chose comme ça. Et puis, il y avait eu des affrontements. On craignait pour les travailleurs. On craignait les poursuites. Et la CGT s'était dit, il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop d'affrontements parce que les gens, ils sont parfois imprudents. Surtout ceux qui ne sont pas organisés, d'ailleurs. Et ils avaient trouvé une astuce. Ils avaient rempli des fûts de purin. Ils les avaient mis dans un camion, ils avaient un petit jet. Et quand les cadres approchaient, pour pas qu'il y ait de bagarre, mais ils lançaient du purin. Je vous assure que ça devait être délicieux. Ce cadre plein de purin. Eh bien, il y a eu des poursuites. C'était des ouvriers. Ils ont été poursuivis. Alors, c'est un très mauvais souvenir. Parce qu'il y en a un qui était poursuivi. On était devant la cour d'appel à Angers. Et j'avais réussi à embrouiller le tribunal, embrouiller le parquet. J'étais super contente de mon truc. Je me suis dit, oh là, on a une chance de s'en sortir. Puis ils disent, avez-vous quelque chose à ajouter? Et lui, il dit, quand j'étais dans le camion. Mais ils l'ont condamné. Alors, c'est juste ça, c'est une anecdote. Mais c'est pour vous dire qu'eux, ils servaient du purin, comme font les paysans parfois. Et eux, ils étaient poursuivis et condamnés. C'est vrai qu'il ne fait pas bon être ouvrier devant la justice. Ça, c'est vrai. Ensuite, s'agissant des magistrats, bien, il n'y a pas besoin de leur mettre la pression. Et il n'y a pas besoin de leur donner un billet. Parce que quelquefois, même très souvent, les syndicalistes ont dit, ils l'ont acheté. Non. Ils n'achètent pas, ils ne sont même pas payés si cher que ça, d'ailleurs. Non, ils sont tous originaires de la même classe sociale, quasiment. Ils sont formés dans une université qui n'est pas spécialement progressiste, c'est la fac de droit. Ensuite, ils vont dans une école qui n'est pas du tout progressiste, c'est l'école de la magistrature. Et puis une école, ces écoles qui sont dites grandes écoles, on va mettre des guillemets. Ces écoles où on explique aux gens qu'ils sont des petites merveilles. Ouais. Comme ils vivent entre eux, ils finissent par y croire. Ben oui, à la fac, c'est moins facile. Parce que c'est plus large, c'est plus ouvert, etc. C'est moins facile. La fac, elle est souvent discréditée. Il faut faire ses preuves après, tout ça. Tandis que dans les écoles, c'est plus facile. C'est repérable, ça. Hein. Les magistrats, ils sont dans ces écoles. Et tout ça, bien, ça fabrique des gens qui, après, sont dans les tribunaux et qui n'en sortent plus. Et donc, ils n'ont aucune connaissance. Hier, quand je plaidais pour les 9 de PSA, ils leur reprochaient, on le voyait au travers de l'instruction, leur reprochaient d'avoir obtenu gain de cause de leurs revendications. Ils en faisaient un élément de l'infraction pénale. Je disais, mais vous allez condamner tous les syndicalistes qui ont obtenu gain de cause. Vous savez que ça fait partie du syndicalisme que d'obtenir gain de cause. Ils leur reprochaient d'être plusieurs. Mais par essence, le syndicalisme, c'est d'être plusieurs. Le patron, il est tout seul, il a le pouvoir. En face, c'est d'être plusieurs qui permet de constituer éventuellement un contre-pouvoir. C'est l'essence du syndicalisme. Mais eux, ils se disaient, tiens, je me disais hier, je leur fais une formation syndicale, c'est pas possible. Mais parce que ils n'en ont jamais vu. De même, nous parlions de l'usine de Poissy, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'une usine. Ils n'y ont jamais mis les pieds. Ils ne savent pas qu'à 45 ans, à Poissy, on est presque sourd. Parce qu'il y a tellement de bruit. Ils ne savent pas qu'à 40 ans, on a mal aux épaules, et on a mal aux hanches, et on a mal aux genoux, etc. Parce qu'on fait des mouvements qui font mal. Ils ne savent rien de tout ça. Et quand les patrons viennent et disent, il a dit des gros mots, il est violent. Ils ne savent pas que les petits chefs ils disent des gros mots toute la journée. Et ils ne savent rien de tout cela. Un jour, je plaidais contre Renault. Non, c'était encore PSA. Eh bien, contre PSA, et mon adversaire disait, « Oh, mon Dieu, il les avait sanctionnés, justement, pour avoir dit des gros mots. » Et elle dit, « Oh, je ne peux pas le dire. Ce n'est pas possible, Madame la Présidente. » Je dis, « Attendez, je vais le dire. » Je vais encore m'écorcher la bouche. Ils avaient traité d'enculé. Mais les petits chefs, ils le disent aussi. Mais ça, les magistrats, « Oh !» Dans les salons de thé, on ne dit pas ça. Ben les magistrats, ils ne vivent pas dans le même monde que les ouvriers. Voilà. Et ils sont d'une autre classe.
Il faut qu'on se dise les policiers.
Oui. C'est pas pareil.
Est-ce qu'il y a une dernière intervention ? Il y aura aussi une intervention là.
Je serai bref pour tous les camarades qui veulent encore s'exprimer. Je voulais d'abord remercier vraiment toute l'argumentation et l'encouragement que vous donnez. Et également, ayant moi-même fait un certain nombre de procès gagnés contre les institutions européennes, je voulais dire que le droit européen permet aussi de défendre des causes dans des pays où ils n'ont pas la même législation. Vous l'avez vous-même, je pense, soulevé à un moment, de dire que la référence aux droits fondamentaux a pu, dans certains cas, vous aider à plaider. Donc je crois que dans l'Europe sociale et l'Europe de la justice, on peut trouver matière aussi à défendre. Un grand merci pour l'encouragement de tous ceux au quotidien qui luttent.
Alors, sur ce point, quand même, juste un mot. L'Europe de la justice,
oui.
On attendra un peu. Mais il y a la Cour de justice des communautés. Voilà, on peut s'en servir. La Cour de justice des communautés, elle a longtemps, c'est vrai, rendu des décisions qui renforçaient les droits fondamentaux. Moi, on a eu quelques arrêts ces dernières années qui n'étaient pas très bons. On va se battre là aussi. Et on gagnera.
Bon, bonsoir. C'est juste pour rappeler sur la justice que lorsque le maréchal Pétain a pris le pouvoir, il y a 80 députés qui ont refusé de voter les pleins pouvoirs. Par contre, lorsque les magistrats ont dû prêter allégeance en 41, il n'y en a qu'un seul, un seul. Il n'y en a pas deux en France, Paul Didier. Il y a eu un seul magistrat qui a refusé de prêter allégeance à Pétain, et donc c'est un nom qui... On cherche des fois pour donner des noms de rue, je crois que... Et à partir de là, on commence à comprendre, puisque ces fameux juges qui ont prêté allégeance à Pétain, c'est les mêmes, après-guerre, qui ont jugé Pétain. Une fois qu'on a compris ça, on prend un peu de recul sur la magistrature. Merci.
Alors, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas quelles ont été les condamnations des Black Blocs. Disons que les Black Blocs, je ne sais pas très bien de quoi c'est fait. Et je ne me permettrai pas d'en parler. Voilà. Je ne sais pas si on peut conclure sur ce genre de sujet. Juste de dire que la lutte continue. Voilà.